Europe 1 Culture Média.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de commencer la semaine, même un Blue Monday. On est avec vous, on est avec Culture Média au sommaire. Tous les médias, toutes les formes de culture. Aujourd'hui, par exemple, une série événement tirée d'un jeu vidéo culte. Et puis une autre série française déjantée qui ne se regarde ni à la télévision, ni sur un ordinateur. Vous allez voir. Il y aura évidemment Bruno Denet pour ses télescopages, Jean-Luc Lemoyne et sa session de rattrapage. Et dans quelques instants, le journal des médias et les audiences télé d'hier et du week-end avec Louise Bernard. Notre infomédia s'interroge. Et si la génération TikTok était une génération toc-toc. C'est le titre, c'est la thèse d'une étude commandée par la Fondation Reboot et la Fondation Jean Jaurès avec des résultats qui font froid dans le dos. Par exemple, alors que 3% des adultes pensent que la Terre est plate, ce chiffre explose à 29% des jeunes qui utilisent TikTok comme moteur de recherche, c'est-à-dire 10 fois plus. On les appelle les platistes et ce n'est là qu'un exemple. Nos invités ensuite, Mémona Interman, elle sait que la Terre est ronde. Pour l'avoir parcourue en tous sens depuis un demi-siècle, 50 ans de cartes de presse sur tous les conflits du globe, en passant par un intermède au CSA, elle publie un livre de récits souvenirs. Une journaliste ne devrait pas dire ça. Dire quoi ? Elle va nous dire, justement. Enfin, l'humoriste Maxime Gasteuil pour son nouveau spectacle Retour aux sources. Pendant le confinement, il est retourné vivre chez ses parents à Saint-Émilion avec sa chambre d'ado qui n'a pas bougé depuis les années 80 et c'est hilarant. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, j'arrive à le dire. Culture Média, c'est parti.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Louise Bernard.
Donc, bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Au sommaire de votre journal des médias, Louise.
C'est la dernière de Passage des Arts hier soir. Alors qu'a dit Claire Chazal à la fin de son émission ? On parlera aussi d'un retour à la télé, celui de David Ginola. Hugo Clément, lui, est mis en examen. La nouvelle série quotidienne de France Télé prévue pour l'automne. Et puis une star du film Les Choristes, la star même du film, arrive dans une série sur TF1.
Mais d'abord, on commence ce journal par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
Ils ont regardé sans surprise le film Les Tuches 3. Ça marche aussi bien au cinéma qu'en diffusion à la télévision. 3 670 000 téléspectateurs hier soir. 18,6% de part d'audience qui permet donc à TF1 d'être leader. Devant France 3 qui proposait cette semaine encore une enquête du commissaire Van der Waal qui est 2 810 000 téléspectateurs. C'est en progression par rapport à la semaine dernière. Plus 600 000 téléspectateurs et 13,9% de part d'audience. Enfin, c'est France 2 avec le film Millennium, ce qui ne me tue pas, 2 140 000 téléspectateurs. 11% de part d'audience.
Et ce week-end ?
Pas de surprise, hein, cette semaine encore, les fictions de France Télévisions ont battu les divertissements de TF1. Samedi, le polar de France 3 était en tête, un téléfilm de la collection Crime A. C'était pourtant une rediffusion, mais bon, il y avait encore plus de 4 millions de téléspectateurs qui ont répondu présent. Ensuite, Ninja Warrior a fait un peu moins bien que la semaine dernière, mais permet quand même à TF1 d'être leader sur la fameuse cible commerciale, les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Et vendredi soir, c'est la série César Wagner qui était en tête sur France 2, comme la semaine précédente, avec 4,5 millions de téléspectateurs, suivi France 2 de TF1, qui proposait un grand concours spécial pièce jaune, qui a bien marché pour le programme, plus de 3 300 000 téléspectateurs, c'est un bon score. Mieux d'ailleurs que lors de la dernière diffusion de l'émission, c'était en août.
Europe 1, le journal des médias.
Claire Chazal a présenté hier soir son dernier Passage des Arts, son émission sur France 2.
Il était minuit lorsque la journaliste a remercié ses invités et refermé son émission avec ces quelques mots.
Merci à tous d'être venus. Merci aussi à vous de nous avoir suivis dans ces Passages des Arts qui nous permettaient de vous retrouver chaque dimanche soir sur France 2. Merci beaucoup.
Voilà, des mots très sobres pour la fin de cette émission qu'elle portait depuis septembre 2019. Alors la raison de cet arrêt, France Télévisions jugeait les audiences insuffisantes. Claire Chazal s'était exprimée uniquement auprès de Télérama début décembre. Elle avait décrit un grand sentiment d'injustice. Quelques jours plus tard, plus de 160 artistes avaient signé un texte dans le journal du dimanche pour tenter de sauver cette émission. En vain donc, dimanche prochain, c'est un nouveau programme qui va prendre sa place. Beau geste présenté par Pierre Lescure. C'est une émission sur le cinéma. Et quant à Claire Chazal, pour l'instant, elle va continuer de présenter Le Grand Échiquier qui est sur France 2, mais il n'y a pas beaucoup de numéros de prévus.
Autre actualité télé, c'est un retour, celui de David Ginola à la télévision.
Oui, et plus précisément sur Canal+, l'ancien international français devient consultant pendant les soirées de Ligue des Champions, d'après le journal L'Équipe. Alors pour lui, c'est un retour même sur la chaîne cryptée, puisqu'il y avait déjà exercé entre 2013 et 2016, avant de partir sur M6, où il avait notamment présenté la France à un incroyable talent pendant plusieurs années. David Ginola fera sa première sur Canal+, dans l'émission l'émission Canal Champions Club le 14 février prochain. Ce sera à l'occasion du 8e de finale PSG-Bayern Munich.
De la télé, on passe à la radio. L'humoriste Gaspard Proust, trois fois plus présent désormais sur Europe 1.
Oui, c'est à partir de cette semaine. Ce n'est plus une, mais trois chroniques qu'il assurera dans la matinale, les mardis, mercredis et jeudi à 8h34. C'est précis, c'est la radio. Il sera donc présent dès demain pour livrer son regard sur l'actualité dans Europe Matin.
9h10 et 53 secondes, c'est précis, c'est la radio. Dans l'actu également, le journaliste Hugo Clément mis en examen à la suite de l'une de ses émissions.
Oui, mis en examen pour diffamation et injure publique suite à la plainte d'une personne qu'il avait filmée. C'était dans une enquête consacrée à la chasse en enclos diffusée en mai 2021 sur France 5. Cette personne, c'est Benjamin Tranchant, qu'Hugo Clément désigne comme un richissime héritier, propriétaire d'un enclos de chasse. Alors à l'époque, il avait ouvert ses portes à l'équipe de l'émission. C'est Hugo Clément lui-même qui a révélé l'affaire sur ses réseaux sociaux. Selon lui, la plainte porte sur des phrases purement factuelles s'appuyant sur des images tournées dans la propriété de Benjamin Tranchant avec son accord. Alors pourquoi Benjamin Tranchant s'est-il lancé dans cette procédure judiciaire? Eh bien d'après Hugo Clément, il n'aurait pas trouvé l'émission à son goût car très critique vis-à-vis de son loisir qui consiste à tirer sur des animaux enfermés. Fin de citation. Le journaliste dénonce une procédure bâillon qui encombre une justice déjà bien débordée et il conclut en affirmant « Nous ne céderons rien face à ce type de manœuvre ».
Actualité du côté des séries maintenant. France Télévisions va proposer une nouvelle série quotidienne dans quelques mois.
Alors, il faut attendre un petit peu. Ce sera à l'automne prochain. Une série qui va se dérouler dans un lycée agricole et qui va suivre la vie de cinq jeunes. France Télévisions parle de ce feuilleton comme étant un portrait juste, moderne, représentatif de la diversité d'une jeunesse plus rurale, rarement vue à l'écran. Et le groupe public ajoute que la série mettra en lumière la complexité des enjeux du monde agricole et rural d'aujourd'hui et de demain avec humour. Et loin des clichés. C'est un tournage qui va avoir lieu à partir d'avril dans un ancien lycée agricole breton à Vitré, près de Rennes. 200 épisodes ont été commandés. Et petite particularité qui concerne la diffusion, il y aura un épisode de 7 minutes qui sera proposé donc chaque jour sur la plateforme de France Télévisions. Et en fin de semaine, un grand épisode de 35 minutes sur une des chaînes du groupe. On ne sait pas encore laquelle ni à quel horaire.
De France Télévisions, on passe à TF1. Jean-Baptiste Monnier intègre le casting de la série « Demain nous appartient ».
Vous l'avez découvert dans le film « Les choristes ». C'était un des élèves de Gérard Jugnot. Eh bien, il sera bientôt sur TF1 d'après Télé Loisirs. Il vient de débuter le tournage. Et intégrera donc la série dans quelques semaines. Alors, il n'est plus élève, mais cette fois-ci professeur de sciences et vie de la Terre.
Il a mué.
Mais c'est ça, il a grandi. Il a vieilli même. À son âge, on peut commencer à dire ça. Et ce n'est pas la première fois qu'il va jouer à la télévision. Il a déjà incarné des personnages dans des téléfilms et puis dans la série de France 2, Mes chers disparus. Et dans un autre genre, rappelez-vous, il avait aussi participé à l'émission Danse avec les stars sur TF1.
Merci beaucoup, Louise Bernard. À demain, Louise, pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, notre info midi du jour avec cette question. Et si la génération TikTok était une génération Tok-Tok? C'est pas moi qui pose cette question de cette manière. C'est une enquête IFOP commandée par la Fondation Reboot. On en parle dans un instant. A tout de suite sur Europe 1.
9h-11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Génération TikTok, génération Tok-Tok. C'est le titre d'une très sérieuse enquête IFOP commandée par les non moins sérieuses Fondation Reboot et Fondation Jean Jaurès. Les jeunes, vous le savez, font un usage massif des réseaux sociaux. Rien de nouveau, rien de surprenant. Ils les utilisent pour se divertir, mais également pour s'informer, et c'est là que ça coince. Vérité alternative, platisme, on va vous raconter, créationnisme, alien theory, moonhawk, c'est-à-dire dire que les Américains n'ont jamais été sur la Lune, mais que c'est un trucage. Voici quelques exemples des théories propagées sur TikTok, réseau social préféré des jeunes, avec ses 9 millions d'abonnés rien qu'en France. Pour en parler avec nous ce matin, la présidente de la Fondation Reboot, qui a justement commandé cette enquête, Hélène Libouig, bonjour.
Bonjour Philippe.
Avec nous également le directeur du pôle politique et actualité de l'IFOP. Bonjour François Cros.
Bonjour.
Je me tourne vers vous, Hélène Libouig. Tout d'abord, qu'est-ce que la Fondation Reboot et pourquoi avez-vous commandé cette étude avec la Fondation Jean Jaurès?
La Fondation Reboot, notre mission, c'est de financer pour donner les enseignements au niveau raisonnement critique pour lutter contre le fake news. Mm-hmm. Et nous avons demandé IFOP pour faire cette étude parce que nous savons toujours que le réseau social était un vecteur de dispersion de fake news, mais on ne savait pas vraiment le niveau de capacité de persuasion de réseaux sociaux pour nos jeunes. pour nos jeunes.
On va voir ce niveau de persuasion des réseaux sociaux. C'est absolument édifiant pour ne pas dire que ça fait froid dans le dos. François Crozes, je rappelle, vous êtes le directeur du pôle politique et actualité de l'IFOP, l'Institut de sondage. Quels sont les principaux enseignements de cette étude? Évidemment, après, on va les détailler.
L'enquête montre qu'il y a une défiance croissante des jeunes à l'égard de la science. Quand on compare la génération TikTok à la génération RTF, puisqu'on a des historiques qui remontent à 50 ans, en 1972, on voit que la perception de l'apport positif de la science est en chute assez significative. En 72, on avait 55% des jeunes qui la jugeaient positivement, et aujourd'hui, on n'en a plus que 33%. Et tout ça va de pair avec, on va dire, une sécession croissante d'une partie de la jeunesse avec le consensus scientifique et parfois médiatique sur tout un ensemble de sujets, les fake news étant particulièrement répandues dans cette catégorie de la population, notamment chez les gros consommateurs de réseaux sociaux.
On voit déjà là un premier paradoxe, puisqu'ils sont défiants vis-à-vis de la science, ils s'informent sur Internet, sur leur ordinateur. Sans science, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de téléphone portable.
Oui, mais le paradoxe, il est qu'en fait, ils ont plutôt un rapport, je dirais, ambivalent ou nuancé. Ils ne sont pas forcément, hostiles à la science. C'est juste que, notamment dans le contexte, vous savez, de crise climatique et plus largement de toute la critique qu'il y a eu à l'égard du progrès technique au cours des 40-50 dernières années, rend aujourd'hui une génération beaucoup moins, on va dire, positiviste, scientiste et consumériste que celle qu'on pouvait mesurer encore pendant les 30 Glorieuses.
Hélène Libouig, des réseaux sociaux, il en existe beaucoup. Est-ce que vous avez mené cette étude en ciblant TikTok? On voit que les résultats sont différents suivant qu'on s'informe sur TikTok ou d'autres réseaux. Où est-ce que est apparu TikTok au cours des recherches?
Mais TikTok, on savait que c'était beaucoup plus prenant pour les jeunes parce que, bien évidemment, déjà la croissance de TikTok, c'est 6 fois plus rapide que YouTube, par exemple. Et c'est vrai que, bon, les jeunes aujourd'hui, le Facebook, etc., c'est plutôt pour les jeunes adultes.
Exactement. Facebook, on l'a dit ici, Facebook, c'est pour les vieux.
Mais ce qui est frappant, c'est que les jeunes aujourd'hui, ils trouvent que vraiment, ils trouvent les informations fiables de la part de TikTok. Donc, ce qui est également frappant de cette enquête, c'est que le système de certification de compte de TikTok, ça veut dire que ces gens-là sont des experts, qui est complètement en mauvaise compréhension, bien évidemment. La deuxième chose, c'est que un TikToker, il ou elle a plus de followers, les jeunes pensent que ça veut dire que c'est quelqu'un qui est expert et plus fiable
et
aussi.
Qui est fiable. Plus il a d'abonnés, plus il est fiable.
Exactement.
Ce qui est un peu terrifiant quand on voit certaines influenceuses qui ont un nombre d'abonnés croissant et astronomique. Alors, je vais prendre le premier exemple qui est absolument sidérant. On va parler du platisme. Le platisme, ce sont ces gens qui pensent que la Terre est plate. Eh bien, ça se partage davantage sur TikTok. Les chiffres, 3 adultes, on est en France, 3 adultes pensent que la Terre est plate. Ce chiffre explose. 29% des jeunes qui utilisent TikTok comme moteur de recherche, c'est 10 fois plus. Pourquoi est-ce différent sur TikTok? Pourquoi ça a autant d'impact sur les jeunes? Qui veut répondre? François Crozes, Hélène Libouig?
Je te laisse,
oui.
François.
Oui. François Crozes.
Oui, l'enquête montre qu'on a aujourd'hui en France 16% des jeunes qui pensent que la Terre est plate, contrairement à ce qu'on leur dit à l'école. Donc on a fait exprès de mettre en perspective cet angle complotiste, puisque c'est l'objet de l'enquête. Pour information, d'après certaines données américaines, on serait plutôt autour de 34%, c'est les jeunes américains. Donc on est toujours quand même dans une situation moins catastrophique que de l'autre côté de l'Atlantique, mais on a ce genre de thèse qui est en rupture complète avec le consensus scientifique, qui est particulièrement forte chez les jeunes. Quand on compare la réponse des jeunes à celle des seniors de plus de 65 ans, on a 3 à 4 fois plus de jeunes qui croient au platisme. Donc on est bien sur un effet de génération qui est accentué par les pratiques Internet, informatives, qui fait que plus on va sur certains réseaux sociaux, notamment comme Twitter, Telegram ou encore YouTube, qui, vous le savez, est vraiment l'antre de tout un ensemble de vidéos pseudo-documentaires sur ces sujets.
Juste un tout petit détail, on peut arriver à croire, on va en parler, que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune, puisqu'on n'y était pas, les jeunes n'y étaient pas, c'était en juillet 69, on peut imaginer que c'est un trucage, et si maintenant on voulait faire des trucages, je ne suis pas en train de défendre cette thèse, ce serait possible. Mais la Terre plate, il y a de plus en plus de gens qui prennent l'avion, ils savent tous qu'on peut faire le tour de la Terre en avion, on peut aller des États-Unis en Australie, et d'Australie en Europe, et d'Europe aux États-Unis, tout le monde voit que la Terre est ronde. Comment expliquez-vous qu'il y ait un tiers des jeunes qui pensent, des jeunes qui sont inféodés à TikTok pensent que la Terre soit plate. Comment est-ce possible?
Malheureusement, il y a plein de biais qui sont pas...
François, alors, Hélène Libouy, comment vous expliquez ça?
En fait, je vais parler un peu des sujets de biais, parce que bien évidemment, un problème de réflexion, c'est lié avec le raisonnement critique, qui est d'identifier les biais. Mmh. Et je vais parler plusieurs biais. D'abord, il y a le biais de confirmation, qui est lié avec les réseaux sociaux, avec leur algorithme, qui nous fait qu'on va montrer que des gens qui croient comme nous.
Voilà.
Et bien évidemment...
Donc les platistes ne lisent que des messages venant de platistes.
Voilà, et bien évidemment, quand les jeunes, ils accumulent leur renseignement vis-à-vis leurs réseaux sociaux, 80% de leur renseignement vient de là, ce qu'ils voient, c'est que des sujets qui sont liés avec le thérapeute, etc. La deuxième chose qui est psychologique, c'est que c'est l'effet de désinformation. Le problème, c'est que donc, si on a l'impression et le biais qu'on croit quelque chose qui est peut-être au début peu probable, après, c'est très difficile, même si on a des vrais faits, etc., qui démontrent notre première impression, c'est très difficile de changer notre avis vis-à-vis ces désinformations. Donc, ces deux biais-là est un peu la cause et qui est amplifiée par les réseaux sociaux.
Il ne suffit pas de prendre l'avion. Donc, alors, François Cros, l'enquête pointe également la forte adhésion des jeunes et de la jeune génération aux vérités alternatives. Par exemple, 2 jeunes sur 3 croient au moins à une de ces vérités, de ces contre-vérités. Par exemple, ils sont 25% à penser qu'on peut avorter sans risque avec des produits à base de plantes. J'ai plusieurs questions. Est-ce que c'est un problème d'éducation? Est-ce que l'école a un rôle à jouer? Et quelles conséquences pour la santé?
Oui, on a testé en fait de manière empirique dans cette enquête tout un ensemble de contre-vérités scientifiques. Certains sont des grands classiques de l'anti-science comme le platisme ou le créationnisme, et puis d'autres sont des sujets plus récents hein, et qui tiennent notamment, vous savez, à la décision de la Cour fédérale américaine de révoquer le droit constitutionnel à l'avortement, ce qui a suscité en fait une myriade d'interventions de pseudo-influenceurs sur les réseaux sociaux qui expliquaient qu'en fait on pouvait aujourd'hui avorter par exemple sans risque avec des produits à base de plantes. Et l'idée, c'était d'aller mesurer au fait quel était l'impact de ce genre de discours qui peut s'avérer, contrairement hein, aux questions de platisme ou de créationnisme, vraiment nocif pour la santé des Français et notamment des jeunes femmes. Et là, on se rend compte notamment que chez celles qui regardent particulièrement des vidéos, notamment sur Instagram, Telegram ou YouTube, ont un taux de croyance à ce genre de faits qui peuvent s'avérer extrêmement dangereux, qui est autour de 30 à 40%. Donc on voit bien les dégâts de ce type de discours absolument pas contrôlé sur les réseaux sociaux.
Ce qui m'inquiétait le plus quand je parlais de santé, c'est est-ce que le taux de croyance génère un taux de fécondité différent? Est-ce qu'il y a des jeunes femmes qui croient en ces choses-là et qui ne prêtent pas de précautions, par exemple?
Alors ça, on n'est pas allé mesurer les choses jusque-là. Hein. Globalement, en fait, l'enjeu, c'est est-ce qu'elles sont quand même, elles adhèrent globalement à tous les messages de prévention des autorités publiques et sanitaires en matière, par exemple, de sexualité ou de gynécologie. Pour l'instant, on a, pas de dégâts encore trop prononcés là-dessus. En tout cas, on n'est pas forcément en mesure de les lier à ce type de discours alternatif présent sur les réseaux.
Il y a évidemment beaucoup d'autres sujets. On marque une courte pause. On se retrouve avec François Cros et Hélène Libouig. Sujet passionnant, génération TikTok, génération TokTok. À tout de suite.
Claire. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Génération TikTok ou génération TokTok? On parle de cette étude notamment lancée par la fondation Reboot auprès de l'IFOP. C'est un sondage dont les résultats sont édifiants. Nous sommes avec Hélène Libouig, c'est la présidente de la fondation Reboot. François Cros, c'est le directeur du pôle politique et actualité de l'IFOP. Ils sont tous les deux avec nous. Dans cette enquête, on apprend également que la part des jeunes qui croient au caractère scientifique de l'astrologie a augmenté sensiblement en une vingtaine d'années. Quels sont les chiffres qui signent cette augmentation, François Cros?
Alors oui, c'est pas la première fois qu'une enquête montre au fait qu'il y a un regain croissant pour les croyances surnaturelles. Certains appellent ça du paranormal, de la parascience. Hein. Ça rappelle beaucoup, vous savez, le slogan d'une série connue des années 90 qui disait que la vérité était ailleurs. Mmh. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que depuis une vingtaine d'années, on a un retour du religieux en France et en Occident qui se fait pas forcément au profit des grandes religions instituées, mais plutôt en faveur de différents types de croyances irrationnelles. Par exemple, l'astrologie est une science, est une idée aujourd'hui qui est partagée par un jeune sur deux. C'était à peu près 40% il y a une vingtaine d'années. Et c'est une proportion qui est supérieure à ce qu'on observe chez les seniors. Donc on est bien sur quelque chose qui est plutôt générationnel. Et puis aussi, on a une progression non négligeable de jeunes, par exemple, qui croient dans les esprits ou dans la réincarnation. Ça progresse environ d'une quinzaine de points en 15 ans. Donc on a aussi d'autres croyances de type marabout, de type superstition, de type fantôme, sorcière. Alors, vous savez, hein, c'est aussi lié à tout un discours qu'on retrouve par exemple dans la sphère écolo-féministe autour du féminin sacré, de la puissance au fait des ondes, etc., qui fait que dans une nouvelle génération, on valorise désormais ce type de croyances, alors même qu'elles sont infondées scientifiquement.
Est-ce que ça peut être dangereux? Parce qu'on a le droit de croire aux esprits sans que ce soit dangereux.
Alors, oui, la plupart du temps, ça constitue quelque chose qui peut s'avérer relativement ludique. Hein. On l'a déjà peut-être tous vu, expérimenté dans sa jeunesse, quand on est adolescent. Mais la vérité, c'est que ça favorise aussi un certain type de discours qui rejette aussi la science et notamment la médecine. Donc, on se retrouve avec des corrélations, par exemple, au refus de se faire vacciner, des corrélations avec le refus aussi de tout un ensemble de prescriptions médicales ou de bon sens des autorités publiques et sanitaires qui peuvent ensuite s'avérer problématiques.
Je souris parce qu'on a vu des gens qui avaient l'air absolument dans mots raconter dans des émissions qu'il ne fallait absolument pas se faire vacciner parce que dans le vaccin, il y avait des puces 5G qu'on allait nous inoculer en secret. Parfois, ça peut être complètement terrifiant. Je vais être plus sérieux avec... nous ici on fait de la radio, on fait de l'information et l'usage d'internet pour s'informer est devenu la norme. Vous écrivez ceci dans l'étude: l'ensemble des jeunes âgés de 11 à 24 ans ne s'informent pas comme leurs parents, voire leurs grands-parents, en écoutant la radio ou en attendant la grand-messe du 20h. Seulement 23% des personnes de cette génération ont suivi un JT au cours du dernier mois. C'est pas seulement une question de marketing, Hélène Libouig, peu importe la manière où on s'informe. Peu importe la source, sauf que la source est totalement différente puisque votre objet, c'est de lutter contre les fake news. Qu'est-ce que ça change d'être informé par Internet plutôt que par la radio ou la télé?
En fait, ce n'est pas uniquement d'être informé par Internet, mais plutôt par les réseaux sociaux. Parce qu'encore une fois, ça vient du biais de confirmation. Mais comme vous avez dit, même pour la radio, pour les jeunes, aujourd'hui, c'est même moins de 20%, c'est 17%. Donc, et le problème, c'est que les jeunes, avec notre enquête, ce qui a montré, c'est qu'en réalité... Ce n'est pas les médias qui diffusent, qui donnent plus de confiance aux gens de ce qu'ils croient, mais plutôt la personnalité. Donc, ça revient sur l'influenceur, etc., de TikTok. Donc, à la base, on a un vrai problème d'éducation des médias. C'est quoi les sources? Qui est derrière les renseignements? Et vraiment, de lutter contre le fake news, on a besoin d'une autre forme d'éducation pour nos jeunes.
Oui, et juste pour donner raison à faire le lien avec tous ces sujets, en parlant de superstition... papesse de la télé-réalité, Nabila, ou plutôt icône de la télé-réalité, elle a lancé la semaine dernière sur Amazon une émission Cosmic Love qui promet des rencontres amoureuses basées sur le signe astrologique des prétendants, en prétendant, je vois que vous tenez la tête, en prétendant évidemment que ça améliore les résultats. Est-ce qu'il y a une manière de lutter contre ceci, François Cross, Hélène Libouig? Une chose est de faire des constats, la suivante est d'apporter des solutions.
Je vais commencer, François. Je crois qu'il y a deux éléments différents. D'abord, côté régulation, en fait. Vraiment, ces réseaux sociaux doivent être mieux gérés côté, en particulier, de connaissance et transparence de l'algorithme, comment et pourquoi on voit des choses.
Et pour l'instant, aucun réseau social n'a divulgué son algorithme.
Voilà. Et même au niveau chercheur, etc., aujourd'hui, on a du mal à vraiment comprendre tout ça. La deuxième chose, pourquoi pas, en particulier pour les enfants, de faire des alertes, un peu comme on fait avec des cigarettes. On a vraiment suffisamment des études et le renseignement qui est disponible qui montre le problématique pour la santé. Pas uniquement sur le fake news, mais vis-à-vis des réseaux sociaux. Donc ça, c'est côté régulation. La deuxième, il faut absolument aborder par l'éducation. Aujourd'hui, il faut donner les moyens aux écoles, pas uniquement sur les éducations scientifiques, mais également la possibilité côté éducation média, mais aussi raisonnement critique. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on veut avec nos jeunes? On souhaite qu'ils puissent réfléchir au niveau des vrais faits et réfléchir à leur propre réflexion.
François Cros, je vous pose la même question. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et si oui, quoi?
Là-dessus, au fait, la Fondation Reboot est en pointe hein, en France comme aux États-Unis sur l'éducation aux médias et au raisonnement critique. Je rappellerai quand même aussi en France qu'on a eu récemment au fait la commission Bronner qui a rendu hein, au fait au président un rapport avec tout un ensemble de recommandations. Et puis on a d'autres exemples hein, internationaux qu'on peut suivre sans forcément aller dans l'extrême. Mais je vous rappelle que le TikTok chinois est beaucoup plus, on va dire, contrôlé, modéré que le TikTok offert au reste du monde, avec des règles, par exemple, de 40 minutes de visionnage par jour. Bref, il y a tout un ensemble de contrôles et d'exigences en matière de modération sur l'ensemble des réseaux qui peut être une source d'inspiration.
Et moi qui aime relever les paradoxes, on note celui-ci, TikTok qui est chinois est interdit en Chine. Ceci veut peut-être dire cela. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Hélène Libouic. Vous êtes la présidente de la Fondation Reboot. François Crouse, vous êtes le directeur du pôle politique et actualité de l'IFOP. Merci pour ce direct. Merci pour vos lumières.
Merci Philippe.
Dans un instant, on va retrouver la grande reporter de guerre, Memona Interman. C'est elle qui nous rejoint. On va parler de son livre Récits, Souvenirs. Une journaliste ne devrait pas dire ça. On va retrouver également Bruno Donnet pour ses télescopages. A tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Dans un instant, nous recevons l'ex-reporter de guerre, Memona Interman. On parle de son livre de souvenirs, Une journaliste ne devrait pas dire ça. Mais avant, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous observez ici la mécanique médiatique. Et hier matin, vous avez suivi la matinale de BFM TV. Et vous êtes tombé sur une séquence qui vous a semblé hautement symptomatique.
Oui, une séquence épatante, Philippe, que je vais vous raconter une fois n'est pas coutume, en commençant par la fin. Car hier matin, au terme du direct qu'elle venait tout juste de réaliser dans une boulangerie, la journaliste Églantine Després a terminé son intervention en formulant une demande assez cocasse à son interlocuteur.
Merci beaucoup Philippe. Alors je vais vous faire une confidence. J'aime toujours commencer ma matinée direct dans une boulangerie parce qu'en général, j'essaye de gratter un petit déjeuner. Est-ce que vous me l'offrez ce matin ?
Voilà, elle lui a demandé si vous voulez bien lui offrir le petit déj. Alors, est-ce qu'elle a obtenu gain de cause ? Je vous le dirai tout à l'heure, car la première question qu'il faut se poser, Philippe, c'est est-ce qu'Églantine méritait vraiment qu'on lui offre des croissants ? Et la réponse, c'est incontestablement oui. Oui, car Églantine a eu beaucoup de mérite. D'abord, d'un point de vue technique. Vous savez, Philippe, je vous ai dit que la séquence m'avait paru hautement symptomatique, et elle l'est, hein, tout d'abord, en termes de moyens. Car lorsqu'elle bosse le dimanche dès Potron Minet pour BFM TV, l'infortunée Églantine travaille seule. Toute seule. Elle tient son micro dans une main et une perche à selfie dans l'autre, au bout de laquelle est accroché son téléphone portable.
Et vous voyez, ce matin, je me trouve dans une boulangerie qui est extrêmement bien située entre le port et la vieille ville.
Eh oui, il n'y a pas de moyens, pas de caméraman. Alors les images bougent un peu, hein, le cadre n'est pas toujours très droit, mais Églantine fait ce qu'elle peut. Et hier matin, donc, BFM TV l'avait dépêché chez un boulanger de La Rochelle. Bien. Mais alors, pourquoi mais faire oui. Eh bien, c'est là que ça se corse, Philippe, car la séquence était aussi très symptomatique du point de vue du contenu. Pourquoi ? Eh bien, parce que si Églantine était chez le boulanger, c'était pour illustrer la grève. Oui, oui, la grève qui s'apprête à paralyser le pays jeudi prochain.
Et c'est vrai que quand il y a des grèves ou de trains ou éventuellement une pénurie d'essence, ça freine les gens à venir nous voir, forcément.
Ok, donc au moment où les boulangers hurlent leur mécontentement contre les prix de l'électricité qui flambent et les factures qui les étranglent, BFM TV choisit de tirer Églantine de son plumard pour l'envoyer causer grève avec un boulanger.
Et ce que vous me disiez, Philippe, c'est que ça avait déjà été très compliqué pendant les vacances de Noël la première semaine.
Bon, c'est pas banal, mais faut bien remplir l'antenne. Le problème des boulangers pas contents, BFM l'a déjà traité. La réforme des retraites, elle en a fait des heures de débat. Alors, elle jette son dévolu sur la grève qui s'annonce. Reste tout de même une difficulté. Établir le lien entre la réforme des retraites, un boulanger de La Rochelle et la grève. Pas de problème. Le boulanger se trouve près de la gare et Églantine a réussi à dégoter un angle.
C'est parce qu'il y a beaucoup de Parisiens qui viennent pendant les vacances.
Bah ouais, pas de train, pas de Parisiens et donc pas de clients pour le boulanger de La Rochelle qui, comme chacun le sait, bosse traditionnellement avec une clientèle de proximité.
Bah traditionnellement, La Rochelle est reconnue pour être la grande banlieue de Paris quand même, donc on a énormément de Parisiens.
Voilà, alors La Rochelle, en grande banlieue parisienne, étant donné qu'Églantine a un micro dans une main, une perche à selfie dans l'autre et un écouteur dans l'oreille, elle a autre chose à foutre que de faire remarquer au boulanger que La Rochelle se trouve quand même à 400 bornes de Paris et plus la moindre énergie pour expliquer à sa rédaction qu'il y a quand même des limites au remplissage de l'antenne. Voilà pourquoi, hier matin, à 7h14, Églantine a réclamé un petit peu de réconfort.
J'essaye de gratter un petit déjeuner, est-ce que vous me l'offrez ce matin ? matin.
Mais bien sûr, avec un petit croissant tout chaud.
Bon, manque de bol, et parce qu'elle subit aussi un rythme effréné et des cadences infernales, Églantine a dû choisir sa boulangerie à la hâte. Elle a donc pas eu le temps d'aller regarder les avis des internautes, dommage, car si elle l'avait fait, elle aurait pu lire, entre autres, l'avis d'Ouroboros42 qui a écrit, je cite, « Je connais cette boulangerie, presque tout est industriel, elle est dégueulasse, la meilleure boulangerie de La Rochelle se situe juste une rue derrière. » Eh oui, ça s'est joué à une rue près, pauvre Églantine.
Oh, quel retour ce lundi. Merci beaucoup Bruno Donnet.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Vous avez fait des reportages avec des équipes. Bonjour Mémona Interman.
Bonjour Philippe Vandel.
Journaliste, grand reporter sur la 3 depuis 84, carrière exceptionnelle. Vous avez couvert la guerre au Liban, et pas seulement les guerres, mais quand même, je vais le dire, le Liban, Sarajevo, la guerre du Golfe, le Kosovo, la chute du mur, de Berlin, l'Irak, l'Afghanistan, des talibans. Vous avez également assuré la présentation de France 3 et aussi... Vous avez été nommé au CSA, mandat de 6 ans. Vous publiez ce livre de récits, de souvenirs. Une journaliste ne devrait pas dire ça. Il y a un point d'interrogation à la fin, c'est chez Hugo Doc. Qu'est-ce qu'une journaliste ne devrait pas dire et que vous dites quand même ?
Raconter l'envers du décor. Par exemple, dire que lorsqu'on est lancé sur un terrain de guerre, on y va parfois à main nue. On y allait jusqu'à très récemment, jusqu'en août 2011, en Libye, qui était un pays à feu et à sang, la chute du régime, on y allait sans casque, sans gilet pare-balles, sans aucun équipement, juste avec en jean et en t-shirt, quoi.
Je me souviens même qu'une fois, une équipe de France 3 dont vous étiez, était, je ne sais plus sur quel terrain, vous n'aviez pas de voiture blindée. Et vous ne l'aviez pas dit à la direction parce que les gens de la 1 et les gens de la 2 avaient des voitures blindées et pas vous.
En effet.
Vous êtes allés quand même.
Vous avez très bonne mémoire, c'était au Kosovo en 1999 et c'était sous les bombardements.
Mais c'est vous qui étiez inconsciente, on ne peut pas reprocher ça à la direction.
La direction du magasin n'avait pas d'équipement, il y avait une différence entre France 2 et France 3, comme vous le saviez. Mais j'ai toujours cru que je m'en sortirais. Et ça, c'est le secret de ma vie, c'est on ne me laisse pas passer ici, alors je passerai par là.
Ouais,
y croire.
Oui. Alors, puisque vous parliez de la Libye, c'est dans l'un des premiers chapitres, les premières pages, au début du livre, vous racontez, je vous cite, comment le colonel Kadhafi avait prévu de me violer, comment il a raté son projet, son plan n'était pas improvisé, le criminel s'organisait pour commettre ses viols. Vous aviez évoqué cet épisode tragique, mais jamais avec cette somme de détails.
Alors, j'ai raconté... En 2020, à deux gendarmes qui sont venus chez moi et qui appartiennent à une cellule d'investigation sur les crimes contre l'humanité, puisque la France s'est donné juridiquement les moyens d'enquêter, je leur ai raconté dans le détail. Ce détail, qui est dans ce livre, n'était pas dans un livre précédent parce que l'éditeur avait eu très peur en 2009 des représailles de Kadhafi juridiquement, mais aussi des représailles physiques. Parce que ce qu'il m'a dit, ce dictateur, les derniers mots, c'était... Puisque j'avais dit, si je raconte à mes collègues ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous faites ? Il m'avait dit, en regardant deux fois, c'est très cinématographique, mais c'est tout à fait réel, « I kill you ». Et il m'a regardé, avec le doigt pointé vers moi, l'index, « I send somebody to kill you », j'envoie quelqu'un vous tuer. Et on savait que Kadhafi avait des commandos qui venaient tuer les gens. Il l'avait fait en Grande-Bretagne, des opposants surtout, en Grande-Bretagne, ailleurs en Afrique, en Allemagne. Est-ce que vous croyez qu'il aurait hésité ? Et quand je suis retournée en Libye, en 2011, au moment de la chute du régime, d'ailleurs, on avait travaillé juste derrière le mur de la caserne Azizia, où cette rencontre incroyable avait eu lieu avec lui. J'étais toute jeune. Hein. Je n'y ai plus pensé. J'étais en train de monter mon reportage avec Pierre Guény de France 3 et avec Salah Agrabi. Et c'est le soir seulement que je me suis rendu compte que j'étais à cet endroit-là. Et Salah Agrabi, le caméraman, avait demandé aux rebelles « Mais alors, vous saviez cette histoire ?» Et le rebelle avait expliqué « Oui, si elle était revenue là avant... » Elle ne serait pas rentrée vivante.
Et quand vous êtes là, Kadhafi est encore vivant ou c'est fini pour lui ?
Là, il était en chute libre. Il était en train de se faufiler quelque part pour se sauver.
Voilà. Mais il avait encore des réseaux.
Il avait encore tous ses réseaux. Il a encore des réseaux maintenant. Hein.
Il aurait pu atteindre votre intégrité s'il l'avait souhaité.
Mais c'était clair que s'il l'avait voulu, il m'aurait envoyé, j'aurais eu un petit accident quelque part.
Vous n'avez rien oublié, vous n'avez rien pardonné. Vous écrivez page 43. Mon regret, ne pas avoir été présente à la morgue de Misrata le 21 octobre 2011, quand la dépouille du dictateur avait été exposée dans une chambre froide du marché. J'aurais voulu le revoir là, Kadhafi, bien regardé en face, la cicatrice sur sa poitrine qui m'avait tant glacé.
Tout à fait.
Normalement, on ne dit pas ces choses-là. Normalement, dans les livres,
on ne dit pas.
C'est une qualité de ce livre. On dit, maintenant, tout est oublié, maintenant, il faut pardonner, maintenant, il faut tourner la page. Vous ne tournez pas la page.
Non, j'aurais voulu, et ma fille, Élodie, le jour où Kadhafi a été tué, le 20 octobre 2011, elle est arrivée derrière la porte, elle avait resté une bouteille de champagne, c'était son anniversaire la veille, Élodie s'en souvient. Maman, champagne. Parce que Élodie avait 3 ans quand ça s'est passé. Julien avait 4 ans et demi. Mes enfants n'ont jamais oublié. Si je n'ai pas parlé, c'était aussi pour protéger mes enfants.
Il y a des récits absolument incroyables dans ce livre. Une histoire rocambolesque qui a fait ma joie parce que j'ai l'impression qu'on est dans le film La vie des autres et pourtant tout est vrai. Ça se passe à Budapest. On est dans les années 80. C'est avant la chute du mur. C'est encore l'URSS qui est de l'autre côté. Vous retrouvez avec votre équipe de tournage dans un appartement privé, donc à Budapest, dans le salon d'un type qui est assis en slip et en chaussettes, qui fume, qui boit un verre et qui ne vous dit pas un mot. Comment en est-on arrivé là?
Alors, on était allé à Budapest en 1986, puisque c'était l'anniversaire de l'insurrection de Budapest. On avait rencontré un opposant, en tout cas quelqu'un qui se battait contre cette chape de plomb. Et il nous avait donné un contact pour le soir. Donc on est allé vérifier, on a pris quelques repérages. Et le soir, on arrive devant une porte. Je me suis dit, est-ce que c'est bien la porte indiquée ou pas? Parce que toutes les portes ressemblaient. J'ouvre la porte, elle était déverrouillée. Je me suis dit, bingo, elle est là. Et je dis à l'équipe, c'était les équipements lourds encore, on n'est pas avec un téléphone. C'était Dominique Boucher, c'était Henri Arsens. Je leur ai dit, vous tournez, j'avance. On entre, on voit un type avec un verre, gros verre épais à whisky derrière sa table basse. Il nous regarde arriver, il était en slip et en chaussettes. Et il ne dit rien. Moi, je ne parle pas un mot de hongrois, évidemment. La personne qui avait donné le contact n'était pas là. Je regarde, l'œil découvre tout. Je vois une femme arriver en nuisette. Vous voyez presque le slip. C'était une séquence chez les gens. Et ils ne disent rien. Ils ne disent rien, ça dure vraiment 2-3 minutes. Et on pouffe de rire. C'est un rire nerveux. Et je dis, ils ont peur ou quoi?
Et vous êtes reparti.
On repart.
Et racontez qui était-il? Parce que ce qui est intéressant, c'est le sous-texte et le contexte. Pourquoi ne disait-il rien alors que leur porte était ouverte?
Parce que ce sont des gens qui avaient peur à tout moment d'être interrogés. Et ils devaient faire partie de cette mouvance de l'intelligentsia à Budapest qui voulait évidemment raconter ici à l'Ouest. Pensez bien que c'était un autre monde. La vie qu'ils avaient et cette tentation folle de pouvoir en sortir. Imaginez qu'aujourd'hui, on puisse le faire à Téhéran. Je suis allée à Téhéran plusieurs fois. Et j'ai vu des gens chez eux, j'ai vu des femmes en débardeur chez elles. Mais imaginez qu'elles parlent de cela et qu'on soit dans le salon d'une famille à Téhéran. Et bien c'est ce qu'on avait vu derrière le rideau de fer.
On pouvait filmer des choses, la télévision pouvait montrer des choses qu'on ne peut plus montrer, parfois pour de bonnes, parfois pour de mauvaises raisons, dites-vous. Vous avez été conseillère, Memona Interman, au CSA, mandat de 6 ans, comme c'est l'usage, de 2013 à 2019. Vous y consacrez de longues pages. Je n'ai pas réussi à déterminer si c'était un bon ou un mauvais souvenir.
Alors, je pense que j'ai eu raison d'y aller pour voir derrière le rideau des apparences. Mais mon Dieu, qu'est-ce que je me suis ennuyée là. Et je me suis insurgée contre plusieurs choses. D'abord, cette élite, il faut une élite. Il n'y a aucun problème. Mais, pardon messieurs, mesdames les émnarques, mais vous n'êtes pas calife à la place du calife. Moi, j'avais été nommée par le président de la République, un décret me nommant. Or, là-bas, les dossiers qu'on me donnait étaient tout prémâchés. J'avais à peine le droit de dire « Est-ce que je peux me renseigner sur tel ou tel sujet ?» Et tout était à l'avenant. Alors, j'ai eu dans mon bureau les plus grands patrons de l'audiovisuel. J'ai participé aux assemblées plénières où se trouvait, par exemple, Vincent Bolloré. Tous ces patrons qui étaient des gens fréquentables, font la pluie et le beau temps. Pourquoi? Parce que la loi sur l'audiovisuel date de 1986 et qu'en fait, c'est une industrie comme une autre. Si on veut, demain, rénover la régulation de l'audiovisuel, c'est un mot un peu énorme, c'est un peu technique, mais enfin, ça nous concerne tous. Il faudrait que le Parlement ait le courage de se saisir de ce sujet. Or, le Parlement fait ce qu'on lui demande, les lobbies. C'est pas un gros mot. Les lobbies sont à la fête.
Et donc, quand vous étiez là-bas...
Emmanuel Macron avait promis, j'ai rencontré Emmanuel Macron 4 fois, notamment lorsque j'étais au CSA, il avait promis de faire une réforme de l'audiovisuel. Où est-elle, monsieur le président de la République, votre réforme de l'audiovisuel?
Vous travaillez encore, puisqu'on vous voit sur la couverture du livre, avec votre carte de presse 2022. Absolument. Vous travaillez où et pour qui,
Je suis chroniqueuse au Midi Libre et à la Dépêche du Midi, deux titres issus de la Résistance. Et je remercie le Midi Libre et la Dépêche de m'employer parce que je ne crois pas que le monde de l'audiovisuel me donnerait un micro ou une caméra puisque je les ai tellement kikinés pendant que j'étais au CSA.
D'un mot, France 3 a annoncé la disparition prochaine de ses journaux nationaux. Qu'est-ce que cela vous inspire? Il n'y aura plus de 12-13, il n'y aura plus de 19-20.
Je trouve que c'est une atteinte au pluralisme. Je trouve que c'est
ça sera remplacé par des journaux régionaux. Attention, hein, ils ne suppriment pas les journaux.
Mais l'un plus l'autre. Et les journaux régionaux ont existé. Mais cette fenêtre ouverte sur le monde de France 3 qui donnait à voir une France quand même différente de France 2, etc. Et le monde aussi. Lorsque j'étais à France 3, le journal du 19-20 battait à plate couture celui de France 2 de 20h.
Je m'en souviens.
Voilà. Non, c'est une atteinte au pluralisme. C'est très dommage.
Merci beaucoup, Memona Hinterman. Je rappelle ce livre de récits et de souvenirs qu'on a fait que survoler. Il y a des histoires absolument édifiantes. Une journaliste ne devrait pas dire ça. C'est publié par Hugo Doc. Merci d'avoir été avec nous en direct. Dans un instant, Culture Média continue sur Europe après les infos de 10h. Notre invité, c'est un humoriste, Maxime Gasteuil. On parle de son nouveau spectacle Retour aux sources. Et puis dans Les Indispensables, une série événement tirée d'un jeu vidéo culte. C'est Jean Z évidemment qui en parle. Et Louise Goua. Elle s'est intéressée à une web-série française qui n'existe que sur Instagram. Jean-Luc Lemoine aussi, je ne l'oublie pas, pour sa session de rattrapage. À tout de suite.